RMC, face aux grandes gueules.
Alexis Corbière, le député de Seine-Saint-Denis, bonsoir. Enfin bonsoir, non, bonjour, à 11h04, on peut dire encore alors, bonjour.
Je tiens à dire que vous m'avez appelé Olivier Corbière oui. Sur le visuel, maintenant c'est bonsoir.
Ça va
comment
mieux.
Allez-vous, cher Olivier?
On n'est que vendredi. Alexis Corbière, faut-il une commission d'enquête parlementaire sur le volet français de l'affaire Epstein?
Alors, que les députés travaillent sur des sujets, et s'il y a des députés qui ont manifesté le fait qu'ils souhaitent le faire, pourquoi pas, il faut que ce soit que plusieurs groupes puissent signer ça, c'est la demande notamment de certains insoumis, moi je m'y oppose pas. Mais pour dire les choses sur le fond de ma pensée, on est quand même dans un dossier où il faut que ce soit la justice et la police qui travaillent. On est dans un dossier où il y a 3 millions de documents à récupérer. Moi actuellement je suis rapporteur d'une commission d'enquête sur le Louvre, la sécurité, je vois le boulot que ça représente. Je veux pas qu'on croie qu'un parlementaire, avec les moyens de l'Assemblée, les administrateurs, ont les moyens de débunker ce qu'il y a dans ces 3 millions de documents qui sont en anglais, dans lesquels il y a des faux, etc. Donc, comment dirais-je? Surtout que même mes amis qui proposent cette commission d'enquête, comme il y a eu des remarques comme quoi la justice travaillait dessus, a dit on pourra pas aborder le dossier judiciaire. Bon, donc je sais pas très bien ce que ça ferait. Alors une fois que j'ai dit ça, que les choses soient claires. Je suis pour toute la lumière doit être faite là-dessus. C'est quelque chose, c'est une affaire absolument dégoûtante qui nous dit quelque chose du temps dans lequel on est. C'est-à-dire que l'argent permet d'acheter les consciences, les corps chez certaines personnes qui ont des relations désormais d'un réseau international parce qu'il y a un entre-soi social où on se fréquente, on s'aide financièrement, sans même parler d'histoire de sexe. Mais d'abord, on observe que, notamment ce monsieur Epstein a la capacité, je vais venir sur Jack Lang, d'aider financièrement, etc. Donc on voit bien, et ça dans plusieurs pays. Et ces gens ont des pratiques vis-à-vis de l'intime absolument détestables parce que ça leur semble normal d'acheter des jeunes filles de 14, 15, 16 ans pour qu'elles viennent dans des soirées afin d'abuser d'elles. Bon, donc tout ça, c'est, comment dirais-je, quelque chose qui est révélateur, je crois, de gens très fortunés qui pensent que toutes les règles ne les concernent pas.
Jack Lang a eu raison de quitter, enfin, on l'a poussé dehors, la présidence de l'Institut du Monde Arabe.
Oui. Déjà.
C'était plus tenable?
Déjà, en dehors de l'affaire, à 86 ans. On n'a pas à être, selon moi, directeur d'un tel institut. Je veux dire qu'on apporte son réseau parce que de connaissances à 80 ans, c'est une chose. À 86 ans.
Faut pas s'accrocher.
On doit s'arrêter, déjà. Je veux pas manquer de respect à ce qu'il a pu faire comme ministre.
Que à 86 ans, si vous êtes encore député, on va vous le reprocher.
Je pense que vous avez bien raison de me le reprocher. Ne m'embarquez pas sur les histoires de l'âge, parce que je vois bien
moi qui serai là pour sortir l'archive.
Non, mais je veux dire,
mon successeur.
On va se parler clairement. Ce dont on parlait n'était pas une fonction honorifique, c'est quelque chose de rémunéré. Je pense que à 86 ans, ou même en vérité, quand on approche les 80 ans, etc., faut savoir arrêter. Mais au-delà de ça, ce que révèle, alors, il y a un combo dans cette affaire, vous en avez parlé, c'est-à-dire qu'il y a l'argent, il y a l'entre-soi, cette espèce d'élite mondialisée, offshore, etc., et puis il y a le sexe. Moi, je voudrais pas, à ce stade, concernant Jack Lang, il n'y a pas de lien sur des histoires crapoteuses. Il y a des histoires d'argent qui est détestable et qui est absolument insupportable de gens qui manifestement
avec une filière
qui est scandaleux et qui mérite de voir au plus près d'un point de vue de la justice parce que moi ça me choque qu'un ancien ministre socialiste ne voit pas le problème. Alors en plus je parle c'est à travers sa fille, mais enfin que avec un millionnaire américain on va monter une société dans un paradis fiscal pour acheter des œuvres d'art. Enfin, faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Là il y a quelque chose qui est scandaleux et qui doit être rudement sanctionné. Moi je pense que
c'est aussi l'histoire de ce diplomate quand même. C'est étonnant ce diplomate qui consulte des sites pédopornographiques aux États-Unis, le FBI le signale, on le renvoie en France en pensant qu'en France on va s'en occuper, alors peut-être par un suivi psychologique, c'est ce que souhaitait son supérieur, mais aussi peut-être un suivi judiciaire. Il se passe rien et il continue sa carrière. Emmanuel Macron d'ailleurs a fait part également de sa surprise. Il était choqué par ça. Est-ce que là aussi on n'est pas dans on se protège finalement dans certains milieux pas vu pas pris.
Bah si c'est le cas, faudra le sanctionner. Ce que je veux dire, c'est
là,
que
là ça vaut une enquête aussi.
Oui, non
là,
mais attendez.
Là c'est vu et pas pris.
Non mais attendez. Oui, y a, pas pris, Olivier m'a embarqué sur deux sujets. Qu'il faille une enquête. C'est-à-dire des policiers, des magistrats qui travaillent, y compris
j'ai même vu
l'autre soir, il y a même là-dedans des images générées par intelligence artificielle. Donc le document ne fait pas preuve. Il faut avoir les moyens de vérifier que ce dont on parle est quelque chose qui est véritablement un document réel. Deuxièmement, on a compris qu'il y a une stratégie, à mon avis, là je vais faire mon petit côté pas complotiste, mais qui vient y compris de la manière dont Trump et les États-Unis balancent 3 millions de documents
pour noyer le poisson.
Pour noyer le poisson, avec en plus de ce que j'ai compris, des documents les plus graves qui ne sont pas mis à disposition.
Il y a donc des noms qui ont été masqués.
Vous êtes noyé sous la masse de choses. D'accord, c'est une stratégie. Donc si ma question
est-ce que disait Steve Bannon,
je crois qu'un petit parlementaire là-dedans, une petite commission parlementaire qui a des moyens, mais à mon avis, n'est pas la plus adaptée.
Non. Hein,
pour que la clarté soit faite, c'est à la police,
justice.
La justice, y compris que les polices du monde entier, à travers, je vais dire Interpol, se mettent en connexion pour aller jusqu'au bout. Et pour aller jusqu'au bout, effectivement, pour vérifier quelle est la nature du réseau, est-ce qu'il y a des influences sur la politique nationale en France, ça peut être intéressant. Et là, vous me citez ce cas. Pour quelle raison ce diplomate est passé à travers les mailles du filet? Il va de soi que ça, c'est intéressant. Après, je crois que là-dessus, si on veut travailler sérieusement sur le dossier, confions-le à ceux qui nous permettent vraiment d'aller jusqu'au bout et pas en faire quelque chose de politicien. Vous avez compris sur quoi je veux en venir. Moi, vous m'avez pas relevé, mais on voit bien comment dans cette affaire, on coche plusieurs cases qui peuvent enflammer la société. Hein. C'est pour ceux qui connaissent, c'est M le maudit, c'est Barbe Bleue, c'est le grand mythe hein, de personnages diaboliques qui sont là et qui peut nous amener sur quelque chose
de
dangereux.
Vous l'avez dit, vous faites partie de la commission sur la protection du patrimoine national et la sécurisation des musées. On pense bien sûr au Louvre. D'autant plus qu'on vient d'apprendre qu'il y a une fraude à la billetterie. Louvre, il y a un réseau qui vient d'être démantelé.
J'ai découvert ça.
Et une opération policière a été menée au musée du Louvre. On a interpellé 9 personnes, dont 2 employés de l'institution, 2 guides touristiques. C'est une vaste affaire. On parle de plusieurs centaines de milliers d'euros détournés. Comme disait Jacques Chirac, les emmerdes, ça vole en escadrille. C'est vrai qu'il y a eu le braquage. Maintenant, il y a cette fraude. Enfin, c'est pas tenu quand même. Le musée du Louvre, je rappelle que c'est le plus grand musée du monde. Hein.
Le plus grand. 9 millions de visiteurs jour. Visiteurs par an, 30
mais c'est,
000
c'est
par
pas tenu, j'ai
envie
de dire.
Alors, on est en train de bosser là-dessus. On va faire un point d'étape dans la semaine avec le président de la commission, Alexandre Portier. Moi, je suis le rapporteur. Et on va auditionner prochainement la directrice, Madame Descartes, l'ancien directeur, Monsieur Martinez. Et on souhaite que même Madame Dati, qui actuellement est prise dans d'autres choses, vienne parce que, donc, on a franchi une première étape d'audition et on va passer une deuxième étape. Qu'est-ce que c'est que j'ai constaté, moi, qui me choque à l'heure où je vous parle? C'est qu'il y avait un schéma directeur, notamment qui abordait les questions de sécurité, qui avait été construit par Monsieur Martinez, qui est l'ancien directeur, entre 2017 et 2022. Quand la nouvelle directrice est arrivée, Madame Descartes, en 2022, elle l'a remis à plat, elle n'a rien fait, et elle a dit on va en faire un nouveau. Et actuellement, on n'en a pas de schéma directeur qui comprend notamment les questions de sécurité.
Donc pendant 4 ans, il ne s'est rien passé.
Voilà. Et là, je ne comprends pas, et moi, j'attends pour lui poser la question, pour quelle raison elle a considéré que celui qui avait été conseillé par son prédécesseur n'avait pas entré en application et que depuis 4 ans, on n'a pas vraiment le schéma directeur. Moi, je suis allé visiter, je veux dire, la salle, si vous avez l'occasion d'y aller, allez voir la salle de surveillance, donc du Louvre, du plus grand musée du monde. Et ben, j'ai dit ça pour choquer, mais c'est la vérité. Le centre commercial Auchan, Porte de Bagnoles, est à côté de chez moi. Je connais aussi la salle de sécurité. Les caméras sont de meilleure qualité que le Louvre. Le Louvre, la caméra qui est fixée sur le quai François Mitterrand, là où la voiture s'est arrêtée, elle est brouillée, neigeuse. On ne voit rien dans le plus grand musée du monde. Non, mais c'est un sujet. Donc là,
c'est la misère.
Bon, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'au bout d'un moment, là, il y a une responsabilité d'une direction. Et à mon avis, c'est le problème de. On revient un peu au sujet.
D'ailleurs, pourquoi la directrice est toujours en place?
Mais
pourquoi la directrice est toujours en place?
Moi, je suis absolument horrifié par ce que vous venez de dire. C'est-à-dire, il y avait un plan de sécurité jusqu'en 2022. La nouvelle arrivante dit ce plan n'est plus valable, on le remet à plat, elle ne fait rien. Mais le temps qu'on met le nouveau plan, il n'y a plus de plan.
On est d'accord.
Il n'y a pas du tout de continuité.
Mais entre temps,
si on
faisait
ça dans la santé,
c'est ça que je veux comprendre. D'autant qu'il y a le rapport d'une instance qui s'occupe de la sécurité de la musée, qui s'appelle l'IJAC, qui a été fait depuis, et qui nous dit quand bien même la nouvelle directrice dit, parce qu'il y a des arguments, faut améliorer, il y a quand même des choses qui devaient être faites. Là-dessus, c'est là où ma commission. Mais ce que je veux dire, vous voyez, moi je travaille là-dessus, ça fait des mois. C'est pas au niveau de récupérer 3 millions de documents comme sur le dossier précédent. Mais c'est intéressant. Moi, je suis un parlementariste, Olivier Truchot. Je suis pour que les parlementaires puissent travailler. Et il y a un intérêt pour le citoyen sur ces commissions d'enquête parlementaires qui permettent d'aller au cœur de sujets. Là, notamment le Louvre. Gros budget, 350 millions d'euros d'argent public qui leur est confié. Il y a un projet de Louvre Renaissance qui est 700 millions qui vont être investis. Donc, il faut quand même que la représentation parlementaire et donc les citoyens mettent le nez sur la manière dont leur argent est utilisé.
Allez, question des grandes gueules. Charles Conseil. Oui, cher, un peu politique, les municipales.
Alors, j'ai découvert que vous n'étiez plus au groupe France Insoumise, mais que vous étiez maintenant chez les écolos. Bah oui, mais pour moi, vous êtes encore identifié, estampillé, France Insoumise. Mais non, mais vous voyez, malgré. les purges internes à ce parti, qui sont le propre de tous les mouvements staliniens, eh bien, vous êtes encore dans l'imaginaire collectif un insoumis. Donc, vous êtes chez les écolos. Il y a en ce moment les élections municipales. C'est très intéressant parce que les municipalités ont permis de découvrir l'ampleur du désastre quand les écolos sont au pouvoir. On l'a vu à Lyon, on l'a vu à Grenoble, on l'a vu à Bordeaux, on l'a vu à Paris. Là où l'écologie passe, les villes trépassent. ça a été systématique jusqu'à des cas très paroxystiques comme à Lyon où on est vraiment au bord de la catastrophe absolue et Paris, je n'en parle même pas. Ma question est, que répondez-vous à ça et comment expliquez-vous que chaque mandature des écolos à l'échelon municipal se soit soldée par une telle catastrophe ? Qu'ont apporté les écolos depuis 30 ou 40 ans en France, à part des interdictions, Charles, et des paysages défigurés avec les éoliennes ?
Des écolos qui sont menacés dans ces villes, selon les sondages.
Et comptez-vous changer de groupe parlementaire de famille à la prochaine occasion de le faire ? C'est une question en forme de recommandation.
Merci. Alors, petit 1. Je suis dans le groupe parlementaire, j'ai pas rejoint moi les écologistes qui accueillent différentes formations politiques. Il y a François Ruffin aussi qui est avec moi. Il y a
qui accueille les purgés.
Non, mais voilà, il y a le mouvement Génération, je sais pas si vous voyez ce que c'est, qui avait été fondé par... Donc ça n'est pas que
par
les membres... Par Benoît Hamon. Ça n'est pas que les écologistes purgés. Et je dois avouer que dans ce groupe parlementaire, il y a une vie démocratique, sa présidente s'appelle Cérielle Chatelain, que je trouve agréable. Voilà, bon, petit 1. Petit 2, j'ai envie de dire, cher Charles, ne changez pas. Voilà, vous êtes quelque part finalement dans notre patrimoine médiatique, un peu à l'image de la Tour Eiffel, où on va vous mettre sous cloche. Vous êtes la pensée
historique
de droite qui ne prend pas une ride. C'est comme le jean, vous ne vous démodez pas, ça va avec tout.
Et oui, mais c'est vrai que les écologistes n'ont plus le vent en poupe. Il y a eu quand même une vague écolo, faut le dire. Alors, on était dans un contexte particulier, on sortait du Covid.
Oui.
Le deuxième tour s'est fait plus tard. Il y a eu une forte abstention, peut-être que les électeurs plus âgés n'ont pas voté, plus à droite. Non, mais, bref.
Olivier,
et là, on sent que c'est le ressac.
Alors,
à Lyon, c'est quand même très mal parti.
Alors, il y a Lyon.
Doucet.
Oui, mais attendez.
C'est mal parti à Strasbourg. C'est mal parti dans plusieurs communes, quand même, si je regarde les sondages.
Hein. Oui. Alors, bon, si quand même, ne perdez pas de vue que les écologistes, ils ont Grenoble, et je pense que Grenoble va rester
à gauche.
Écologiste. Non, mais même écologiste. Oui. Enfin, la candidate choisie par le.
C'est la sœur de François Ruffin.
La remplaçante de Derek Piolle. Il s'avère que c'est la sœur, elle s'appelle Laurence Ruffin. Je pense qu'à Bordeaux, ça peut bien se passer pour Pierre Rumic. Je vais aller soutenir mon ami. On a le droit de parler des villes, là, parce que sinon, ça fait. Enfin, oui, à Lorient, oui, moi, oui, je pense oui. que
la ville. On a le droit de parler des villes si vous ne nommez pas les villes, ni les candidats.
Donc, je fais simple et je nomme
mais
pas
ça,
la ville.
Ça, c'est des règles que vous pouvez changer à l'Assemblée nationale.
Non, mais on va respecter les règles pour pas mettre dans l'embarras. Il y a quand même des villes où je pense que des listes d'union conduites par des écologistes peuvent l'emporter.
C'est quand même plus compliqué pour les écologistes en ce moment, même
il est
dans
vrai,
leur stratégie.
Je pense qu'à Lyon, il y a un problème. Il y a un problème.
À cause de leur bilan.
Bon, mais
c'est le bilan.
Je veux dire, mine de rien, après aussi la nature de la candidature Aulas. Hein. Attention, parce que on est quand même dans un candidat, ça peut vous amuser, mais qui est attrape-tout à un point quand même qui est problème avec milieu d'affaires, parce qu'ancien président du club qui a un certain succès dans le milieu populaire, on ne sait pas très bien ce qu'il propose, etc. Et je veux dire, moi, ce genre de candidat, je vais les qualifier, sans manquer de respect, de monstrueux. C'est-à-dire qu'en fait, ils captent tout. Oui, parce qu'on ne sait pas très bien.
C'est une figure de Lyonnaise.
Voilà, c'est une figure. Oui, mais bon, c'est quoi c'est facile de dire, mais quelles sont ses propositions pour le transport, pour l'emploi, pour la ville, y compris pour l'écologie. On peut rigoler, se moquer de l'écologie, mais non, c'est un vrai sujet, la pollution qui touche en particulier les milieux populaires. Mais quelle réponse il dit quasiment rien. Donc attention à ce genre de personnage comme ça.
D'accord.
Qui, je veux dire, c'est du Bernard Tapie à la sauce lyonnaise, mais il y avait des aspects sympas chez Bernard Tapie. Donc je suis pas sûr que ce soit, ça annonce l'avenir. Après, pour donner ma carte d'identité politique aujourd'hui, je suis un unioniste. Et j'espère qu'on pourra en parler avant que je parte.
Oui,
un unioniste de la gauche et des écologistes. Un unioniste, je suis pour que ce qu'on avait fait en 2024, qui vous avez sans doute horrifié, cher Charles Consigny, le nouveau Front Populaire, puisse produire une candidature.
La désignation de Castex.
Puisse produire. Ça, c'est vrai. Ouais. Et je vous en remercie. Puisse produire une candidature commune à la prochaine élection présidentielle.
Donc, comment on fait? Parce que, sincèrement, la primaire à gauche, elle est mal barrée. Excusez-moi. Puisque la plupart des leaders de la gauche ne veulent pas y participer. Je pense à Jean-Luc Mélenchon, Raphaël Glucksmann, François Hollande, Jérôme Guedj, qui était à votre place il y a quelques jours, et candidat.
Alors, j'ai de l'affection
par la
pour Jérôme Guedj, mais est-ce que c'est un principal leader de la gauche? Vous voyez ce que je veux dire?
De son parti.
Il vous fait pas penser à Léon Blum? Ou à Jean Jaurès? Non? François Mitterrand à la limite.
Attendez, très bien. Jérôme Guedj, il n'est pas là.
Non mais Jérôme fait ce qu'il veut.
Non mais pardon, mais la primaire, ça sent le roussi.
Non mais Ben je sais pas, parce que on va dire les choses clairement. Effectivement, Raphaël Glucksmann et Jean-Luc Mélenchon ont en réalité la même stratégie. Hein, c'est le yin et le yang du même truc. C'est nous sommes des puissances. Allez vous faire voir. Ben l'union, on s'en fout. Le présidentialisme est tel que je suis candidat et vous vous rallierez à moi. Moi, je pense que ça n'est pas comprendre le moment dans lequel on est. L'extrême droite aujourd'hui est extrêmement puissante. 35%,
oui, on dit
peut-être
qu'elle sera
même 40.
Deuxième tour, quoi.
Deuxièmement, le comportement des électeurs de droite au second tour est en train de se modifier et ils voteront pour l'extrême droite. Si en particulier c'est face à des candidats de gauche particulièrement repoussoirs. Donc nous à gauche, on doit penser deux choses. Être fort au premier tour pour s'assurer d'être au second. Deuxièmement, avoir un profil et une stratégie qui n'est pas repoussoir et qui ne projette pas.
Mais comment vous forcez des gens à participer à la primaire qui ne veulent pas?
Eh bien, le résultat des élections municipales aura son importance. Et j'espère que vous m'inviterez, moi ou des amis, pour en tirer les leçons. Que va-t-il se passer dans ces municipales? Là où la gauche résistera, où elle gagnera, ce sera la gauche unitaire. La gauche identitaire, comme ce que cherchent à faire mes amis insoumis, c'est-à-dire se présenter partout, à mon avis, ne remportera quasiment aucune ville, voire même le score de Jean-Luc Mélenchon de la présidentielle.
On peut être faible au municipal et gagner la présidentielle. Vous savez très bien, vous connaissez comme moi l'histoire politique. Je rappellerai quand Jospin est éliminé au soir du premier tour d'une élection présidentielle. Les socialistes juste avant venaient gagner les municipales.
C'est intéressant parce que j'ai fait une tribune. Je raconte ça. Ça n'est pas vrai. Bah justement, il y a une mauvaise compréhension des élections municipales de 2001. Le Parti socialiste a perdu énormément de villes, mais comme ils ont gagné Paris, en raison de la période de la crise, du chiracisme et tout, c'est trompe-l'œil. Et il y a une incompréhension de ce qui a lieu. D'accord. Donc la lecture des municipales, bien sûr, elles ont leur autonomie, a une importance. Moi, ce que je dis, c'est si partout là où on résiste, s'il y a le triomphe des barons socialistes qui pensent que parce qu'ils conduisent une liste d'union, c'est le retour du PS, ils se trompent. Si on gagne des villes, c'est parce que c'est l'union. Et deuxièmement, là où Jean-Luc Mélenchon a fait souvent 40-45%, ces listes vont faire 15%. Donc il doit comprendre que c'est que dans l'union qu'on arrivera à s'en sortir.
C'est quasiment terminé, si on a un temps de parole.
Rapidement, je m'attendais à un scoop. Est-ce que
juste comment il va?
Non. Moi, j'ai envie de savoir.
Vas-y, Sandrine.
Moi, je parle un petit scoop. Vous êtes au GG. Vous voulez pas vous déclarer en tant que candidat? Je sais pas. C'est un peu à la mode là, avec Monsieur Retailleau qui se présente. Pourquoi pas vous?
Parce que
l'inflation des candidatures.
Il y a un piège de notre vie politique, c'est le présidentialisme, que ça met la vie politique dans une situation d'ébriété médiatique où d'un seul coup, pour exister, il faut être candidat à l'élection présidentielle. Ce que je propose, c'est une stratégie. J'invite chacun à l'entendre. Je profite du micro pour dire Jean-Luc Mélenchon, il veut plus m'adresser la parole, mais si tu m'entends, fais ton devoir, aide la gauche et les écologistes à ne pas créer les conditions de victoire de l'extrême droite et à gagner. Donc tu dois aider à l'union, pareil pour Glucksmann. Et honnêtement, venir là-dedans avec un melon énorme pour dire la solution.
Vous voulez dire des gens qui pensent des choses très différentes.
C'est moi, serait grotesque. Mais il faut se battre. Si on n'est pas unis, c'est la défaite. Alors peut-être que le scénario que vous présentez comme fataliste aura lieu. La grande division, parce que attendez, s'il y a Mélenchon et Glucksmann, évidemment Roussel va y aller, les écolos vont y aller, etc. Et ce sera l'émiettement. Bon, et nous perdrons.
Question, parce
moi
que
je ne veux
terminé.
Pas que ce pays soit dirigé par l'extrême droite.
Dernier mot, Retailleau, candidat à droite.
Alors, j'ai pas le temps de développer,
Moi,
je pense qu'il sera. Non, mais méfiez-vous de la droite, parce que j'entends ce que dit Wauquiez, qu'il faut peut-être une primaire de la droite. Ne prenons pas la droite pour des imbéciles. Il y aura aussi du vote utile et il y aura pas l'émiettement. Ceci dit, le conseil que je donne comme homme de gauche, c'est que Retailleau, qui parle comme l'extrême droite en croyant qu'il va faire du Sarkozy en ramenant l'électorat à l'extrême droite, il n'a pas compris qu'on a changé de période et en vérité, il sera totalement aspiré par Bardella. On ne combat pas l'extrême droite en parlant comme elle, tel que le fait Retailleau. Donc, il y va, il est un peu obligé quand t'es chef de parti. Mais honnêtement, je crois pas que ce soit. Vous voulez que je termine en, oui. Moi, je pense de la droite?
Oui.
Le cornu. Regardez avec son profil, le modeste, petit cornu sous la veste. Vous allez voir que la droite a besoin d'un champion et peut-être que le cornu
sera le champion de la droite.
Jeune, un adversaire et qui va faire l'unanimité. Non, mais la droite a changé de nature et parler comme Bardella pour combattre Bardella, c'est perdu d'avance.
Eh ben donc il mise une pièce sur le cornu, on verra. Merci Alexis Corbière.
Bien sûr,
Alexis Corbière, merci d'être venu dans les grandes gueules.